Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Bon, je vais vous parler d'un livre, d'un roman que j'ai beaucoup aimé, puis par ailleurs, je parle jamais de ceux que j'aime pas, parce qu'il y a tellement pas de place pour parler de littérature à la radio et à la télé que ça me tente pas de perdre mon temps. Je suis avec l'auteur de Philibus, ou Philibus, je vais lui demander comment il faut le dire, Frédéric Côté est là, c'est publié au Cheval Doux. Frédéric, salut!
Allô?
Bon, Philibus ou Philibus, tu vas me dire, là, c'est une expression francisée qui fait allusion à l'expression filibuster. Là, on dit quoi? Parce que tu l'écris avec un E, ce qui me fait dire que tu l'as francisé, donc on dit Philibus.
Oui.
OK. Parce que là.
Ben, oui, moi, je le dirais Philibus, mais là, j'avoue, c'est complètement inventé. Donc, t'es la première à me proposer peut-être une autre prononciation, là, mais moi, je dirais Philibus.
Bon, ouais. C'est ça. Ben non, mais c'est parce que je m'en fais un peu trop avec les mots des fois.
Mais
ben, j'ai beaucoup aimé ton livre, pour vrai, ça se lit vraiment bien, puis je sais que les gens, ils s'en vont en vacances très, très bientôt, puis que souvent, ils cherchent des choses à lire. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur cette année. Parlons du titre qui fait allusion à filibuster. C'est un concept politique. Pour ceux qui sont pas familiers avec la notion, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi?
Oui, en gros, dans le fond, c'est ça, c'est que c'est une mauvaise traduction du mot filibuster qui est une obstruction parlementaire. C'est que dans le fond, c'est vraiment une stratégie politique utilisée en chambre pour retarder l'adoption de certaines lois. Mm. Donc, c'est de prendre la parole et de jamais céder son tour de parole. Comme ça, la loi sera pas votée cette journée-là. Puis l'exemple que je cite dans mon livre, justement, c'est celui de Wendy Davis qui a utilisé le filibuster pour retarder l'adoption d'une loi anti-avortement aux États-Unis.
Elle a parlé pendant 11 heures de temps.
Oui, c'était vraiment impressionnant. En fait, là, c'est devenu comme un monument de la culture aussi populaire, pas juste politique, là, vraiment de l'avoir parlé 11 heures devant une salle remplie d'hommes. C'est un moment hyper émouvant de la politique américaine.
Oui, puis bon, ils ont fait un film avec tout ça, mais la parole ininterrompue, c'est intéressant. Parce que dans le livre, ça raconte l'histoire d'une famille. On le sait, là, que dans une unité familiale, la parole peut prendre tour à tour plusieurs formes, plusieurs places aussi. Il y a beaucoup de non-dits dans une famille. Il y a des familles où on dit trop d'affaires. C'est quoi la place de la parole dans cette famille-là, la famille que tu nous racontes, Frédéric Côté?
Mais je trouve ça intéressant de dire justement certaines familles où on a un peu le droit de tout dire. Je pense que cette famille-là, c'est un peu ça, mais que pas toutes les femmes de la famille ont ce même droit-là ou la même place pour le faire. Donc, la mère a une présence qui est tellement forte. Elle se permet de pas avoir de tabou. Elle parle énormément, mais donc ça fait d'elle une mère qui prend énormément de place dans la vie de ses filles. Donc, c'est pas toujours positif. Puis après ça, c'est pas toutes les filles qui peuvent avoir cette même parole-là libérée, qui peuvent s'en permettre autant parce que la mère prend tellement de place dans la famille, justement.
Mais il est intéressant, le personnage de la mère, parce que moi, je l'ai vraiment senti comme étant une mère profondément aimante, mais très, très hégémonique dans une certaine mesure, parfois même un peu toxique. Puis je pense que un peu toute mère qui lit cette affaire-là se regarde aller et fait « des fois un peu de mère
». Mais moi, je l'écris d'une perspective de fille. Évidemment, c'est moi, j'ai pas d'enfant et je suis encore assez jeune, mais moi, le personnage principal de ce livre-là, clairement, c'est la mère, je pense.
Oui.
Puis c'était vraiment important pour moi justement que, oui, c'est une mère toxique, c'est une mère qui a des gros défauts qui affectent ses enfants, mais c'est aussi une femme incroyable. C'est une femme qui est un peu prisonnière de sa cellule familiale, prisonnière du devoir d'élever ses enfants, qui n'a pas d'aide de son mari vraiment, et qui a des qualités de femme qui sont admirables. Elle parle fort, elle est drôle, elle est belle, est intelligente, c'est une femme incroyable, mais après, ces qualités-là sont pas nécessairement des qualités qui sont propres à la maternité.
Ouais, puis tu sens qu'elle est toujours un peu en combat intérieur entre justement le fait d'être mère, cette beauté-là, puis des fois des affaires comme c'était dimanche, puis il fallait encore que je sois une mère, là, je paraphrase évidemment, mais parlons de l'histoire parce que tu as choisi de la raconter en empruntant la voix parce que c'est trois sœurs, une mère, un père, cette famille-là, la plus jeune des sœurs, bébé, on l'appelle bébé même si c'est une adulte, les deux autres sœurs sont là, une médecin, une secrétaire médicale, je crois. Qu'est-ce qui nous raconte ces femmes-là? Parce que l'histoire, elle est racontée par les femmes de cette famille-là.
Mais à la base, l'histoire est racontée parce que le père va être la victime ou le coupable d'un fait divers.
Oui. Brûle pas de punch.
Mais, non, c'est ça. pas de punch, mais il se passe un événement qui fait un peu dérailler la vie de cette famille-là. Et les femmes ont comme un peu le mandat de raconter ces faits divers-là, mais elles passent complètement à côté de ce qui concerne l'événement. Puis à la place, elles se racontent elles-mêmes. Donc, c'est vraiment une soirée, un souper où là, le père va faire dérailler la vie de famille. Mmh. Et ces femmes-là, au lieu de raconter cet événement-là, ben, continuent de s'occuper de leur vie ordinaire à elles. Donc, racontent leurs relations de famille, leurs problèmes avec leur chum. Mais c'est vraiment la vie ordinaire qui préséance sur le drame.
Ben, la vie ordinaire, puis il y a toute une discussion aussi, peut-être, dans ces vlogs sur notre fascination pour la télé-réalité.
Oui. Ben oui, c'est vraiment parallèle à tout ça. Dans le fond, autour de ce souper-là, ces filles-là, il manque un épisode de Love Story pour souper ensemble. Mais c'est des grandes fans de télé-réalité. Puis pour moi, la télé-réalité est tellement connexe aux faits divers. C'est pour ça que j'ai regroupé un peu ces deux fascinations-là pour des choses un peu sensationnalistes. Un fait divers, ça reste une nouvelle qui fait jaser, qui fait parler, qui est extraordinaire. Puis c'est la même chose pour moi, la télé-réalité, c'est la culture populaire, le voyeurisme à son plus grand degré. Là. Ces femmes-là sont plus concernées finalement par leur télé-réalité que par le drame de leur famille.
Ben, c'est intéressant que tu dises qu'ils sont ensemble, qu'ils vivent un drame puis qu'ils n'en parlent pas. En même temps, je pense que c'est le propre de beaucoup de familles de balayer la vraie affaire sous le tapis puis de parler de banalité. Ouais. C'est un grand talent qu'on a dans certaines familles de jamais parler de rien finalement, mais de toujours la gueule nous arrête pas, là, mais on parle pas des vraies affaires.
Oui, puis j'ai lu quelque part sur le livre, c'est que quelqu'un disait que ces femmes-là avaient pas d'affinité, mais finalement une complicité. Puis c'est exactement ce que je voulais écrire. Dans le fond, c'est une famille, c'est ça pour moi. C'est des gens qui vont pas nécessairement bien ensemble, mais à force de milliers de soupers répétitifs les uns après les autres, ben on se développe un langage commun, une complicité, des insides familiales qui finalement deviennent une tradition. Donc oui, ces femmes-là ont une complicité qui surpasse tout le reste.
Je veux qu'on parle un peu, avant qu'on se quitte, Frédéric, de comment tu as travaillé ton texte, parce que je disais tantôt plusieurs voix. Ça me faisait un peu penser, pas dans la façon dont c'est raconté, là, mais à la série des affaires, puis je vous explique pourquoi. C'est évidemment, ça raconte l'histoire d'une relation adultère, et on a à la fois la vision de l'homme et la vision de la femme, puis on voit qu'ils ont une perspective complètement différente de ce qui est en train de se passer. Toi, d'être dans la tête de plusieurs personnages, de présenter la version des fait plusieurs personnages. Qu'est-ce que ça t'a permis comme autrice?
Mais ça, c'était hyper important pour moi de faire ressortir le fait que dans une famille, il peut avoir deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Personne ne va avoir la même version de l'enfance.
Oui.
Personne va avoir
tout le monde est traumatisé, mais pas pour les mêmes raisons.
Puis, pas de la même manière, exactement. Puis, moi, étant dans une famille où justement j'ai une grande différence d'âge avec mes sœurs, je voulais mettre ça en scène, tu sais, le fait que non seulement on n'a pas la même version de notre enfance, mais on n'a même pas eu la même mère nécessairement. Tu sais, il y a eu des années, il y a eu une évolution, il y a eu une transformation chez nos parents. C'est qu'on n'a vraiment pas vécu la même enfance. Puis ça, je trouve ça vraiment fascinant, tu sais, de montrer que personne vit un événement de la même façon, mais même personne vit le souper auquel on assiste de la même façon.
Oui, le souper matriarcal et le livre, je dirais pas pourquoi, donne vraiment très envie de manger des sandwichs aux œufs. La langue est super bien travaillée dans ton livre, l'oralité. Et là, comment tu as travaillé cette oralité-là?
Mais c'est sûr que pour moi, c'était primordial que les soupers, qui sont seulement des dialogues, donc plusieurs sections du livre, c'est le souper matriarcal, fallait que ce soit non seulement réaliste, mais je voulais même que ce soit naturaliste. J'avais envie qu'on les entende, ces femmes-là. T'sais, la voix des femmes commence quand même à être explorée, mise en scène et tout. Mm-hmm. J'avais envie que ce soit des femmes qu'on reconnaît. Ces femmes-là existent. C'est mes amis qui parlent, c'est ma famille, c'est nous. T'sais. Fait que j'avais envie d'une oralité québécoise avec des expressions en franglais, avec des références à la culture pop québécoise, tout ça, pour que ces femmes-là existent. Donc, l'oralité, c'est au cœur de ça.
Ben, des fois, ça a l'air plaqué, mais dans ton cas, c'est très, très réussi. Ça s'appelle Philibus par Frédéric Côté. Merci de nous avoir parlé. C'est publié au Cheval Doux. Et vraiment, je vous le conseille vivement. C'est du bonbon. Ça se lit. En tout cas, moi, je l'ai traversé hier matin au complet. Donc, vraiment, j'ai aimé ça.
Merci beaucoup.